Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 10 septembre 2015. Merci de nous recevoir chez vous pour vous parler aujourd'hui d'agriculture, la productivité agricole. Comment est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il faut passer par la transformation des produits locaux? Nous allons voir tout ceci avec nos invités, Amadou Sy de Faso Kaba Industries, Jean-Parfait Dako de la Direction nationale de l'agriculture et Kone Salimata Berthe de la Direction nationale des produits et industrie animale. Merci à vous, messieurs. Merci, madame, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Gagné Kanté est à la technique.
Studio Tamani.
Depuis 2007, donc, les agriculteurs maliens travaillent plus efficacement, adoptant des nouvelles technologies afin d'augmenter les rendements de leur culture et d'accroître leurs revenus. Au Mali, où même les moindres variations climatiques peuvent engendrer de l'insécurité alimentaire, la maîtrise donc de l'agriculture dans des conditions désertiques demeure essentielle. Pour mener à bien ce projet, le pays bénéficie de l'appui de divers programmes, dont comme celui donc de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, qui a permis à ce que plus de 175 000 producteurs maliens puissent revitaliser leur productivité à travers l'utilisation de nouvelles variétés de semences. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans le cadre de la productivité, de l'amélioration de la productivité agricole? Jean, on parfait d'accord de la Direction nationale de l'agriculture.
Bien, merci, messieurs. Donc, comme vous l'avez dit, au Mali, et il y a depuis 2007 quand même la profession agricole, les agriculteurs tentent à améliorer vraiment leur productivité et ils sont dans ce cas accompagnés par divers programmes. Et spécifiquement le WAP, comme vous l'appelez, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, et qui est vraiment un programme vraiment d'opportunité que le Mali doit saisir, parce qu'il est là vraiment pour développer des technologies et porteuses, surtout par rapport aux filières. Donc c'est ainsi, nous avons la filière prioritaire au Mali qui est le riz, a été vraiment développée au niveau de ce projet et en matière de variété, en matière de les variétés de technologies pour améliorer sa productivité. Ainsi, nous avons au Mali déjà après 5 variétés de riz et de haut rendement que le WAP a développé pour améliorer la productivité du riz. À côté du riz, il y a ce qu'on appelle le système riz, et il y a le développement du maraîchage, et parce que quand tu parles de riz, il faut quand même qu'il soit accompagné. Donc le WAP aussi développe quand même beaucoup le maraîchage, il développe aussi l'élevage, et surtout par l'introduction de variétés très porteuses, surtout en matière de volaille et en matière de caprin surtout.
Merci beaucoup, Jean-Parfait Dako, de la Direction nationale de l'agriculture. Alors, nous allons du côté de madame. Madame est de la Direction nationale des productions et industries animales. Donc, madame, dites-nous aujourd'hui, quelle est la place de votre structure dans l'amélioration de la productivité au Mali?
Oui, merci beaucoup, monsieur. La place de mon service aujourd'hui dans l'amélioration de l'agriculture, elle est vraiment très importante. Dans la mesure où ma structure a déjà signé plusieurs conventions avec des programmes et projets. Et vous venez de citer le nom de PAPAM tout de suite, le programme d'accroissement agricole. Et depuis quelques années déjà, nous entretenons des rapports de collaboration à travers la signature de conventions. Donc, par rapport à ça, nous avons l'appui de ce programme-là pour renforcer les capacités de nos organisations d'éleveurs à travers la mise à disposition de semences de cultures fourragères, à travers également le renforcement de capacités concernant leur formation. Et à ce titre, je dois dire qu'il y a déjà 200 agro-pasteurs qui ont reçu la formation par rapport à la diffusion, au rationnement des fourrages, bref, sur l'alimentation.
D'accord. Alors, nous allons voir du côté de Fassou Kaba. Dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette industrie Fassou Kaba? Mais d'abord, Amadou Sy, qu'est-ce qu'un peul fait dans l'agriculture? Dites-nous.
Un peul, actuellement, comme vous le savez, bonjour. D'abord,
bonjour.
Il faut l'associer, aider l'agriculture à l'élevage, l'aider ne pas partir séparément. Il faut les associer pour pouvoir bien nourrir et accroître notre bétail. Bon, Fassou Kaba, comme vous dites, Fassou Kaba, c'est une société de distribution et de commercialisation de production des intrants agricoles, surtout sur les cultures vivrières, les cultures sèches, les cultures comme le maïs, le riz, le mil, le sorgho, le nibi, l'arachide, etc. Mais à part ça, nous faisons aussi des cultures maraîchères qu'on peut à la production à travers, avec l'appui de l'ICRISAT, avec le programme AVERDC. Bon, Fassou Kaba a créé en 2007. Bon, on avait commencé par le maïs, d'où le nom Fassou Kaba.
Donc mais l'amélioration des semences de maïs.
De maïs. On avait commencé avec ça, d'où le nom Fassou Kaba. Mais on a vu que le Mali, parce qu'en ce moment, le maïs était en position faible par rapport aux autres pays de la sous-région. Parce que la production annuelle ne dépassait pas les 50 000 tonnes. Voilà qu'actuellement, on a à peu près jusqu'à 2 millions après. C'est à cause de ça que notre chère Madame Sribé, Maïmouna Sribé, a vu, comme elle a fait aux États-Unis, a vu l'espérance là-bas. Elle est venue pour pouvoir mettre ses espérances dans son pays.
Donc ici, si je comprends bien, la structure produit également des intrants à base de plantes, si je ne m'abuse.
Oui. Nous avons notre champ de production qui se trouve à Tamala et à Dara. On a près de 30 hectares à Tamala, mais c'est minime. Si on veut produire beaucoup de semences, si on ne veut pas produire, mais on fait des contrats avec des producteurs.
Et ça marche?
Et ça marche. On fait des producteurs semenciers et les coopératives semencières.
D'accord. Alors, Jean-Parfait Dako, vous êtes de la Direction nationale de l'agriculture. Aujourd'hui, quelle est la place du maïs par rapport au mil?
Bon, tu vois, aujourd'hui le maïs est en train de prendre vraiment une grande place dans la production agricole. Parce que surtout avec l'introduction des variétés hybrides, et comme vous l'avez dit vraiment, les variétés améliorées de Fassou Kaba, et nous avons l'IR qui a produit des variétés de haut rendement aussi, que Fassou Kaba aussi est en train de développer. Et le maïs, quand tu le vois dans le système coton, c'est le maïs vraiment, il vient après le coton dans la rotation. Et donc la zone de Sikasso est la plus grosse région de production de maïs, comme c'est là-bas aussi qu'on fait le coton. Et tu vois qu'au niveau dans le périurbain de Bamako, il y a aussi cette culture qui est beaucoup développée, surtout, et elle accompagne quand même l'aviculture. Donc tu vois, un grand nombre de producteurs, d'exploitants, se sont tournés vers le maïs, parce que le maïs est une filière aujourd'hui porteuse.
Voilà. D'accord, merci beaucoup Baba. Jean-Parfait Dako, pardon, de la Direction nationale de l'agriculture. Alors madame, vous êtes de la Direction nationale des productions et industries animales. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette dénomination, production et industrie animale?
Merci beaucoup encore pour cette question très importante. Et il faut entendre par production animale l'ensemble des produits qui sont issus des animaux. Et je vais vous parler, par exemple, de la viande. Je vais vous parler, par exemple, du lait. Je vais vous parler également des sous-produits d'abattage, les cuirs et peaux, le sang, etc. Les œufs pour la volaille. Tout ça constitue des productions animales.
Alors, il y a un moment, nous avons invité plusieurs acteurs pour nous parler donc de ces différents aspects. On disait, les acteurs disaient que on faisait plus la part belle à la production laitière que à la production de la viande, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Bon, ça c'est pas vérifié, parce que nous sommes appelé aujourd'hui à changer de méthode et à changer de pratique. Nous voulons vraiment tendre vers l'intensification de nos productions animales. Vous savez que chaque année, Le Mali importe entre 15 à 20 milliards de francs CFA pour le lait et les produits dérivés. Donc tout ça, ça ne peut pas continuer. Nous avons essayé maintenant d'adopter des pratiques, des changements de comportement pour pouvoir apporter une certaine intensification à notre secteur, notre sous-secteur élevage. Déjà, en matière de collaboration avec des pays du Maghreb tels que le Maroc, nous avons bénéficié d'un important don de semences animales pour venir seulement booster la production de lait et la production de viande. Mmh. Donc à ce titre, il y a un ensemble de programmes qui a été déjà conçu ici par la structure et le département, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Mali pour accompagner ce programme d'insémination artificielle. Mmh. Donc vous voyez que dans les années à venir, à partir de l'année dernière déjà, nous avons enregistré des naissances. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint également un certain nombre d'insémination de vaches sur un objectif de 10 000. Et c'est pour vous dire avec précision qu'aujourd'hui, nous avons atteint les 5 880 vaches inséminées sur les 10 000 programmées pour l'année.
D'accord, merci beaucoup madame. Nous allons revenir à cette question de l'insémination artificielle au cours de cette émission. Mais entre-temps, je me tourne vers donc Amadou Sy de Faso au Kaba Industries. Vous produisez des intrants ici au Mali. Et quel est le marché local par rapport aux produits importés, par exemple?
Bon, actuellement, les produits importés sont surtout des maïs hybrides. Et les cultures maraîchères. À part ça, tous les autres semences produites chez nous ici. Les semences, surtout, viennent de l'IR. Parce que nous sommes en étroite collaboration avec l'IR. Tous les programmes confondus. Le programme Sorgho, le programme MIL, avec aussi l'ICRISAT. Bon, on est en étroite collaboration avec Africa Res, qui se trouve à Boaké. Avec le programme Ndiébé de Sinzana.
Alors parlez-nous un peu de cette question des intrants que vous produisez. Vous en produisez combien par an? Combien de tonnes?
Bon, cette année, notre prévision, c'est 1500 tonnes de semences améliorées. Parmi les 1500, 400 tonnes de maïs, 700 tonnes de...
Je parle des intrants.
De semences de maïs. On a, pour que la programmation cette année, 400 tonnes de semences de maïs, 700 tonnes de semences de riz, 150 tonnes de semences de sorgho, 100 tonnes de semences de mil, 110 tonnes de semences d'arachide et 80 tonnes de semences de riz. Sans compter les cultures maraîchères comme le guambo, etc., sésame. Nous produisons ceci, certains dans notre
Est-ce
propre
Est-ce que c'est champ. Accessible d'abord
aux producteurs?
Par rapport aux produits importés.
Le prix accessible. Parce que notre devise est ça. À rapprocher les semences améliorées aux producteurs. On veut que chaque village, chaque paysan peut avoir facilement accès aux intrants agricoles. Surtout les semences.
À moindre coût.
Voilà, à moindre coût. Nous sommes un peu partout dans le Mali, dans toutes les régions du Mali. Nous avons des agro-dealers qui nous représentent.
D'accord.
À part Kidal, c'est partout dans toutes les régions du Mali.
D'accord. Alors, Jean Parfait, d'accord, de la Direction nationale de l'agriculture. Aujourd'hui, on voit tous les ans un programme d'exonération par rapport aux engrais. Est-ce que cela porte fruit?
Bien, vous savez, c'est une politique. Et c'est en 2008, avec l'avènement de l'initiative RI, que vraiment la subvention des engrais est venue. Et c'était parce qu'on avait vu que la production vraiment au niveau du pays était très basse et il fallait atteindre un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il faut quand même apporter quand même tous les facteurs qui contribuent à augmenter quand même la production. Et c'est ainsi que Et l'État s'est engagé vraiment à appuyer un peu les producteurs et en prenant une partie du coût des engrais. Surtout les engrais étaient en ce moment très chers. Donc en diminuant un peu la charge, les frais d'engrais, les producteurs quand même peuvent aussi ainsi augmenter vraiment leur quantité d'engrais et puis exploiter des superficies quand même capables d'améliorer, d'augmenter la production.
D'accord. Alors, merci beaucoup Jean Parfait Dako de la Direction nationale de l'agriculture. Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite du débat.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester fidèle donc à nos programmes, au programme du Studio Tamani. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la productivité agricole et nous avons trois invités pour nous parler donc des différents aspects. Et nous sommes à la deuxième partie donc de cette émission. Nous parlons d'agriculture et la campagne agriculture de cette année coûtera à l'État près de 190 milliards donc de francs CFA, j'y arrive, pour 47 milliards de subventions aux intrants, engrais et semences et 10 milliards de francs CFA aux équipements. Du coup, le sac d'intrants de 50 kilos revient à 11 000 francs CFA aux producteurs. Alors, ça, c'est du côté de l'agriculture. Aujourd'hui, la production animale, il est question de cette activité également dans ce débat car nous avons la présence de Kone Salimata Berthe de la Direction nationale des productions et de l'industrie animale. Alors madame, nous allons donc comme prévu revenir sur la question des inséminations artificielles. Le Maroc a beaucoup contribué cette année pour faciliter l'accès donc de cela aux éleveurs maliens. Qu'est-ce qu'il en est de ce programme avec le Maroc?
Je dois vous dire que le programme va bon train parce que le mois dernier seulement, l'équipe marocaine était là pour nous soutenir également dans la mise en œuvre de ce programme. Donc il y a tout un ensemble d'activités qu'on doit entreprendre. Il y a des activités de renforcement des capacités. Bon, qui dit insémination dit aussi inséminateur. Et le Maroc s'est chargé de la formation
du personnel
d'un groupe d'inséminateurs l'année dernière. Cette année également, il a assuré la formation au niveau du Maroc du deuxième groupe d'inséminateurs. Et au jour d'aujourd'hui, tous ces jeunes gens sont déjà mis sur le terrain avec les équipements conséquents. Donc ils ont eu les kits d'insémination au complet. Ils ont eu les moyens de déplacement et également la prise en charge des salaires est assurée par la partie marocaine.
Alors aujourd'hui, est-ce que avec ce programme en collaboration avec le Maroc, le Mali est en passe de devenir un véritable pays, un pays de véritable producteur donc dans ce domaine?
Oui, je le pense. Parce qu'avec 17 mois d'activité seulement, du mois d'avril 2014 à maintenant, ça fait 17 mois, et nous avons pu réaliser 5880 inséminations.
Alors, donc, est-ce que le coût est accessible?
Il y a eu déjà des naissances. Oui, le coût est accessible. Le coût est accessible quand il s'agit du programme d'insémination. Et nos jeunes interviennent seulement avec 5000 francs à payer sur chaleur naturelle. Mais par contre, s'il faut intervenir sur chaleur induite, c'est-à-dire en utilisant d'autres produits pour occasionner la chaleur, là, l'éleveur est obligé de payer un peu plus cher. Parce que nous ne disposons pas encore de synchronisants pour pouvoir utiliser ces synchronisants-là au moment de l'insémination artificielle.
D'accord. Merci beaucoup, madame, pour ces éclairages. Alors, Jean-Parfait Dako, de la Direction nationale de l'agriculture, nous parlons d'agriculture, nous parlons de productivité, mais tous les ans, nous parlons également d'insécurité alimentaire. Est-ce que cette année, le Mali est à l'abri?
Bon, à l'allure de la campagne 2015-2016, et si je vois qu'en 2014-2015, nous avions eu un excédent céréalier de 2 millions de tonnes, Donc on se dit que si vraiment la pluviométrie est à date continue jusqu'en mi-octobre, je pense qu'on est en bonne campagne agricole.
Alors, dites-nous aujourd'hui, Amadou Sy de Faso Kaba Industries, où est-ce que vos productions sont le plus écoulées? Dans quelle zone?
Bon, la production s'est portée un peu au Mali. Bon, la marque, le riz, c'est vers les zones rizicoles du Mali.
Bagnéda,
Office du Niger, et puis Odérès. Le maïs, ça c'est un peu partout maintenant. Parce que tout récemment même, je viens de quitter en janvier à Kabou, Gadjaga, vers la frontière mauritanienne. Il y a un Malien qui venait déjà qui a fait 8 hectares de maïs en pleine recherche. On disait autrefois que le maïs dans le Sahel, ça c'est incroyable. Mais maintenant c'est possible. Avec nos nouvelles variétés, les variétés d'été qu'on appelle.
Qui
n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, qui ont tolérance à la sécheresse et qui sont précoces, qui vont de 75 jours, de 65 jours à 90 jours. Et derrière, des rendements moins de 3 tonnes par hectare. Bon, on peut dire que c'est un peu partout au Mali. Parce que les gens, comme M. Dago vient de dire, avec le développement progressif de l'agriculture, les demandeurs de maïs ont beaucoup augmenté. Ça veut dire que les gens ont maintenant l'intérêt maintenant et la production est plus élevée que les autres. Quand on voit Jogomi,
ça c'est valable donc pour les agriculteurs qui nous suivent actuellement, peut-être dans la zone office du Niger. Merci beaucoup, Amadou Sy. Alors, madame, la production animale, est-ce que vous pouvez nous dire le taux de réussite donc de ces inséminations artificielles dont vous parliez tout à l'heure?
Oui, le taux de réussite, c'est dans les 60%. Hein. Dans les 60%.
Et à ça, partir de combien de mois est-ce qu'il y a des risques?
À partir de combien de mois il y a des naissances? Et la gestation ne dure que 9 mois.
9 mois.
Oui.
Donc, vous dites que la réussite, c'est 60% aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous parvenez à combler toutes les attentes? Est-ce que jusque-là, il y a eu des difficultés?
Bon, les difficultés, elles sont, même si elles sont là, elles sont minimes. Mais il faut le dire, hein, comme je vous l'ai dit tantôt, pour réussir l'insémination, il faut avoir l'inséminateur. Nous avons d'énormes difficultés à pouvoir couvrir tout le pays, mais ce n'est que chemin faisant. Et les Marocains, dans leur appui, dans leur collaboration, dans leur partenariat, sont en train de nous aider à avoir le maximum d'inséminateurs pour pouvoir être opérationnels sur le terrain. Donc, je vous ai déjà dit qu'il y a eu deux groupes d'inséminateurs qui ont déjà été formés et ils ont été équipés pour être opérationnels sur le terrain. Et on s'attend encore à envoyer un troisième groupe dans les quelques mois à venir pour aussi effectuer la formation au niveau du Maroc.
Alors, vous dites qu'il y a 60% de réussite. Quels sont les 40% de risques?
Bon, il y a aussi des retours de chaleur qu'il faut aussi essayer de couvrir. Il y a ça.
Oui. Donc, le risque, c'est quoi alors?
Bon, le risque, c'est que en matière d'insémination artificielle, on ne peut pas avoir les 100%. Il y a non seulement quelques retours de chaleur, mais il y a également des problèmes pathologiques. Il y a l'état nutritionnel aussi de la vache bête en question. Tous ces facteurs font que, en tout cas, on ne peut pas réussir vraiment à 100% ces inséminations.
Alors, est-ce que ces inséminations sont pratiquées dans des zones spécifiques ou bien uniquement dans des zones d'élevage?
Bon, pour le moment, avec le partenariat Mali-Maroc, on a essayé de cadrer nos interventions. Nous avons essayé de suivre d'abord 6 axes qui débouchent sur le district de Bamako. Donc, les inséminateurs sont placés sur ces 6 axes-là. Et en deuxième position, avec le deuxième groupe des inséminateurs formés, on en a pris dans les régions. On en a pris à Kaye, on en a pris à Sikasso, on en a pris à Ségou, on en a pris à Koulikoro, on en a pris également à Mopti. Mais pour le moment, les régions du Nord ne sont pas concernées. Parce que la condition, c'était d'avoir un inséminateur à leur niveau. Pour le moment, il n'y en a pas.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, l'agriculture et la productivité, c'est également la mécanisation de l'agriculture. L'État a également investi dans ce domaine. Jean-Parfait Dacot, de la Direction nationale de l'agriculture, dites-nous les efforts de l'État cette année.
Donc cette année, l'État vraiment a développé quand même de gros efforts par rapport à l'appui à la mécanisation de l'agriculture, surtout avec le programme des 1000 tracteurs, où quand même les producteurs quand même auront des tracteurs subventionnés aussi là à 50%. Donc vous voyez, donc tu payes la moitié du prix du tracteur et la moitié que tu payes, eh ben c'est différé sur 4 ans. Donc tu vois que on est beaucoup appuyé. Donc ce programme de mécanisation vraiment vient à point nommé, puisque l'un des goulots d'étranglement, l'un des facteurs qui met même l'agriculture en retard chez nous, c'est un peu l'aspect mécanisation. Peut-être les mécanisations, la petite et même la grande. Je peux dire même la charrue et les bœufs. Souvent, c'est pas tout le monde qui a la charrue et les bœufs. Mathieu aussi n'a pas le tracteur. Donc, il faut ce matériel pour vraiment être aussi résilient, c'est-à-dire s'adapter au rythme des pluies. Parce que l'hiver n'attend pas. Alors, quand tu perds 15 jours par défaut de moyens pour labourer ton champ dans près de l'hivernage, je pense que tu as perdu grand chose. Voilà, donc je pense que ça, c'est un effort qui est bien fait et que nous saluons beaucoup du côté de l'État.
D'accord. Alors, nous allons voir avec Amadou aussi de Faso Kaba Industries. Amadou, dites-nous la différence entre l'année dernière et cette année par rapport à la productivité.
Bon, l'année dernière, il y avait un excédent. Bon, cette année, nous pensons que ça sera mieux plus que l'année passée.
Vous avez vendu plus ou bien...
On a vendu plus.
Cette année.
Parce qu'à travers le programme de productivité agricole de WAP, on a essayé de changer les semences de presque de toutes les zones du Mali, des paysans. Parce que WAP a acheté la plupart des semences et l'a distribué aux paysans pour qu'ils puissent changer leurs semences. Parce que beaucoup de paysans disent qu'il y a peu de rendement. La terre, l'engrais. Le défaut, surtout, n'est pas ça. C'est la non-utilisation des semences améliorées. Comme on le dit, les semences représentent sur le rendement 30 à 40% des rendements. Quand tu as une mauvaise semence, tu es arrêté. Ça, tu vas pas.
Alors, pourquoi les paysans sont accrochés à ces semences dont vous parlez? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de goût?
Bon, non, c'est pas ça qu'il y a plus de goût. Parce qu'il faut acheter.
Donc, ils n'ont pas les bonnes informations.
Ils n'ont pas les bonnes informations. Bon, le problème, c'est que nous, on fait aussi des tests de démonstration dans les milieux paysans. Et ils veulent voir. Parce qu'on a qu'une
seule saison. D'abord, avant d'utiliser.
Voilà, on n'a qu'une seule saison de pluie. Les paysans ne prennent pas le risque d'utiliser des semences qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas, ils ne font pas confiance. Ils préfèrent utiliser leurs anciennes semences. C'est ça que, malgré tout, ils vont trouver quelque chose.
Donc, il y a un problème de confiance.
Il y a un problème de confiance qui est là. Bon, les gens, beaucoup savent, pensent aussi, beaucoup de paysans pensent aussi que ces semences viennent de l'extérieur. Ça ne veut pas de l'extérieur, ça veut du Mali. C'est une semence qu'on avait oubliée parce qu'il y avait beaucoup de pluie qui était courte, bon, qui était vers la fin. C'est ces semences-là qu'on est en train de retourner.
D'accord. Alors, nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, dont les programmes sont retransmis donc à travers une cinquantaine de radios à travers tout le pays. Merci donc à tous nos auditeurs de Kay à Kidal. Studio Tamani, le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur la productivité, comment améliorer la productivité agricole au Mali. Et nous sommes avec trois experts pour en parler. Alors, madame, je me tourne vers vous. Vous êtes Kone Salimata Berté de la Direction nationale des productions et industrie animale. Alors, nous avons reçu il y a quelques jours donc les acteurs de la filière viande qui sont venus nous parler donc de la hausse du prix de la viande. Certains ont évoqué le manque donc de bêtes sur le marché à un moment donné. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous donner l'assurance que dorénavant il y aura plus ce cas similaire de manquement de bêtes sur le marché avec vos programmes?
Ok, merci beaucoup monsieur pour la question. Ce que je dois dire d'abord, c'est que en s'adressant au service de l'élevage, au service des productions et industries animales pour une question de prix, de viande, je peux dire que là, les gens se trompent. Parce que chez nous, en élevage, une fois que l'animal est abattu, ce n'est plus du ressort de production et industrie animale. Ça devient commercial. Donc, comme vous connaissez le prix du mil, le prix du sucre, le prix des autres denrées alimentaires, relève du ministère du Commerce. Donc, cette année, quand même, j'ai été abordé une fois avec la même question. C'est ça que j'avais dit. Mais je sais que déjà, il y a une commission de veille sur l'ensemble des prix des denrées alimentaires. Et cette commission est représentée également par la Direction nationale des productions et industries animales.
En fait, comme c'est une chaîne, les éleveurs aujourd'hui se plaignent qu'il n'y a pas assez de bêtes sur le marché.
Bon, je dois venir à ça. C'est que dans un premier temps, quand les différents intervenants avaient été contactés, d'aucuns disaient que c'était dû au coût élevé de l'aliment bétail. C'est ce que la majorité des producteurs disaient, sinon la majorité des bouchers disaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à acquérir des animaux auprès des producteurs à un prix souhaité. Donc, raison pour laquelle le prix de la viande aussi devrait être proportionnel à cette tendance-là. Donc, quand on a fait comprendre que cette décision ne relevait pas du service de l'élevage, et au niveau du comité de veille, les actions ont été vraiment arrêtées avec l'intervention du ministre du Commerce pour donner subvention aux bouchers. Cette activité avait commencé depuis l'année dernière. Cette année encore, je pense que ça a été la même chose. Il y a un ensemble de bouchers de la rive droite et de la rive gauche qui ont aussi des subventions dans le cadre de pouvoir en tout cas autoriser une baisse du kilo de la viande.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes Kone Salimata Berté de la Direction nationale des productions et industries animales. Alors, Jean-Parfait Dako de la Direction nationale de l'agriculture, parlez-nous un peu des produits halieutiques.
Bon, les produits halieutiques, bon, tu sais, dans le jargon halieutique, c'est vraiment tout ce qu'on produit dans l'eau. Donc, actuellement, quand même, c'est au niveau de la Direction nationale de la pêche, quand même, il y a un vaste programme, quand même, de production halieutique, tel que l'empoisonnement des mares, et la mise en place des cages pour la pisciculture. Et c'est vraiment beaucoup développé. Et actuellement, nous avons augmenté même la production de produits halieutiques. Vous avez vu l'autre jour à la télévision à Sikasso, on voyait que Sikasso devenait un point de vente de produits halieutiques.
Alors aujourd'hui, le monde rural est devenu un vrai business pour beaucoup de personnes. Dites-nous quelles sont les facilités que l'État octroie donc aux investisseurs.
En matière agricole avec grand A. Donc je pense que c'est à ce niveau, je pense que l'État vraiment accorde beaucoup de faveurs aux investisseurs. Et quand je prends par exemple une exploitation agricole aujourd'hui, vous voyez que on est en train de subventionner d'abord les intrants, on est en train de subventionner les équipements et on est encore en train d'aménager des espaces vraiment pour permettre le développement de l'agriculture. Donc je pense que en voulant s'installer comme industriel agricole, je pense qu'on a beaucoup de faveurs. Et surtout que le Mali est en train de développer les agropoles, c'est des zones de production modernes. Donc c'est là où, dans ces espaces, il y a la place vraiment pour les investisseurs.
D'accord, merci beaucoup Jean-Parfait Dako. Alors Kone Salimata Berté, dites-nous aujourd'hui quels sont les plus grands défis de votre direction, la Direction nationale des productions et industries animales.
Bon, merci pour la question. Le plus grand défi qui se pose aujourd'hui à la Direction nationale des productions et des industries animales, ça c'est le défi de financement. Parce que nous avons besoin vraiment de l'apport des bailleurs pour pouvoir soutenir les projets et programmes dans la mise en œuvre de leurs activités. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que ces financements baissent et d'autres même n'existent plus. Avec également la situation de la crise sécuritaire, il y avait eu vraiment quelques difficultés à pouvoir réaliser pleinement nos activités.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Kone Salimata Berthe. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, en matière d'agriculture, je peux dire qu'aujourd'hui, quand même, l'un des grands défis, c'est de voir dans le contexte que nous, dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est on parle beaucoup de changement climatique. Alors, il faut ramener l'agriculture, la dimension, à s'adapter au changement climatique. Et que tout ce que nous faisons rentre vraiment en harmonie avec l'environnement, avec le changement climatique. Et c'est dans cette optique vraiment, qu'on peut vraiment être résilient et pouvoir développer notre agriculture sans trop de contraintes. Vous voyez, aujourd'hui, l'agriculture au Mali est liée à peu près à 70-80% à la pluie. Alors, c'est pas garanti. Donc, si nous développons quand même des technologies, nous développons des pratiques qui peuvent nous permettre de produire vraiment avec peu d'eau, je pense que voilà aussi une des grandes contraintes au niveau du Mali.
D'accord. Alors, Amadou Sy, dites-nous les semences améliorées que vous avez à face au Kaba. Faites-nous une différence aujourd'hui avec les semences traditionnelles.
Bon, il y a une différence.
Le rendement à l'hectare.
Le rendement, bon, quand on prend le maïs, le rendement moyen par hectare, ça c'est 4 tonnes par hectare. Le riz, c'est des.
Alors, comparativement aux semences traditionnelles.
Comparativement aux semences traditionnelles, c'est des semences de cycle long. Des semences comme ça tabac, quand on prend pour le maïs, qui faisait 4 mois jusqu'à 5 mois, mais le rendement était meilleur. Mais ça ne s'adapte pas aux conditions actuelles.
Du changement climatique.
Oui, il y avait le milk, c'est comme ça aussi, des cycles longs. Bon, avec le changement climatique, on est en train de retourner à nos anciennes qui étaient plus précoces, qui ne dépassent pas les 70, 90 jours, maximum 100 jours. Sinon, ce sont nos propres semences qui ont été créées, qui ont été
améliorées.
Mais ça a été amélioré seulement actuellement.
D'accord. Alors, est-ce que le changement climatique a un impact également dans le domaine des productions animales?
Oui, madame. Le changement climatique a un impact dans le domaine des productions animales. Parce que la productivité des pâturages diminue beaucoup avec l'existence des poches de sécheresse. Donc, vous avez constaté que chaque semaine, il y a la situation du bulletin hebdomadaire qui est donné. Donc là, on parle de l'état des pâturages et l'état des points d'eau. Donc, cette année, quand même, il faut le dire, il y a eu retard dans l'installation de l'hivernage, à tel point que nous étions obligés de secourir les animaux avec la distribution de l'aliment bétail que nous avons pu obtenir auprès des partenaires. Donc, le changement climatique joue beaucoup par rapport à la productivité. Et nous avons quand même pu trouver des alternatives.
Parce que sont ces alternatives?
Comme le dit Jean Parfait, là, il faut vraiment songer au projet de résilience. Donc, élever aussi les espèces à cycle court. Ensuite, essayer d'adopter des technologies modernes pouvant contribuer à l'atteinte d'un certain niveau de production et de productivité, plutôt que de rester dans le domaine de l'élevage et de subsistance. Voilà.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame Kone Salimata Berthe. Alors, parlez-nous de la transformation des produits agricoles, Jean-Parfait Deco.
Bon, vous savez, monsieur, c'est l'une des problématiques même de notre agriculture aussi, c'est le problème de transformation. Parce que pour valoriser vraiment un produit, vraiment, il faut que tout le long de la chaîne du produit, vraiment, que le produit ait des valeurs ajoutées. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça qui est une de nos contraintes. Aujourd'hui, la transformation quand même est en cours de progression, surtout pour certains produits. Par exemple, pour tous les produits laitiers, il y a un vaste programme de transformation. Les produits maraîchers, et on voit par-ci par-là des programmes de transformation, les fruits, souvent on voit aussi des programmes de formation, ça, transformation, ça évolue. Et dans le riz, nous avons aussi des programmes de transformation, et, tels que l'étivage, et puis, c'est-à-dire le calibrage du riz dans les riseries. Donc, mais quand même, il faut quand même le dire, il faut évoluer beaucoup plus en la matière et vraiment développer quand même cette notion de transformation pour ajouter vraiment de la valeur à nos produits.
Mmh. Voilà. D'accord, merci beaucoup Jean-Parfait Dako. Mmh. Alors, on connaît Salimata Berthé de la Direction nationale des productions et industries animales. Nous avons vu à un certain moment l'implosion donc des produits dérivés donc dont vous parliez tout à l'heure, la peau et bien d'autres. Aujourd'hui, quelle est la place du Mali par rapport aux autres pays de la sous-région en termes de production de peau, de cuir?
Merci pour la question. Je pense que déjà, il y a des pays demandeurs de peaux et cuir tels que l'Afrique du Sud. Mais il faut le dire, nous avions des projets et programmes qui s'occupaient vraiment de l'amélioration de la qualité de ces produits-là, donc qui sont venus à terme. Donc nous cherchons maintenant à les relancer pour pouvoir continuer les activités de production et d'amélioration de la qualité des cuirs et peaux. Les cuirs et peaux, vous le savez également, rentrent vraiment dans l'artisanat. C'est avec les cuirs et peaux qu'on confectionne beaucoup d'objets, d'art comme les ceintures, les ballons,
beaucoup
les
utilisés
chaussures,
dans la maroquinerie.
Oui, dans la maroquinerie. Donc, nous avons, en cours d'exercice de ces projets-là, renforcé d'abord les capacités des bouchers et apprentis bouchers par rapport à la qualité,
à la production d'abord.
Parce qu'avec les coutelures, par-ci, par-là, le cuir est déprécié. Donc, nous n'avons pas vraiment beaucoup de preneurs par rapport à ça. Donc, une fois que cette connaissance est acquise, les animaux sont dépouillés de la plus belle forme et les cuirs et peaux sont garantis. En ce moment, on peut procéder au pré-traitement. Il y a certaines usines ici au niveau du district de Bamako, qui se prêtent vraiment à la transformation de ces cuirs et peaux-là, avant leur exportation vers d'autres horizons.
Alors, juste au passage, ces usines ne sont pas exemptes de tout reproche en termes de respect de l'environnement non plus, madame?
Non, je pense qu'ils ne sont pas dans ce domaine-là parce qu'ils connaissent déjà comment gérer en tout cas, l'environnement. Mm. C'est vrai, ils sont là dans le district de Bamako, mais tout est contrôlé à leur niveau. Mm. Les eaux souillées sont destinées...
Récoltées.
Décantées.
Dans
les collecteurs. Mm. Ensuite, utilisées ailleurs. Mm. Mais vous savez que dans tout... système de travail, il y a cette notion de gestion de l'environnement qu'il faut vraiment composer. Dans la mise en œuvre de l'ensemble de nos projets et programmes, que ce soit des projets, même des projets d'agriculture, une fois que ces projets-là s'installent dans leur zone d'intervention, même avec l'installation des infrastructures, on peut dire qu'on nuit ici quelque part
à l'environnement.
Donc il faut avoir aussi des actions compensatrices pour pouvoir restaurer ce qu'on a détruit au niveau de cet environnement-là. Et la même chose aussi existe chez nous.
D'accord.
Quand on implante des parcs de vaccination, quand on implante des marchés à bétail, c'est sur une zone donnée sur laquelle il y avait quand même la végétation. Mmh. Donc il faut songer aussi à restaurer l'environnement en procédant à des systèmes de reboisement.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Un dernier mot peut-être, Jean-Parfait Dako?
Donc c'est pour quand même dire que si c'est le dernier mot, c'est quand même espoir. Mmh. Espoir par rapport à l'évolution positive de la campagne agricole 2015-2016.
D'accord.
Et courage vraiment aux producteurs. Et, n'est-ce pas, je pense qu'à l'issue de la campagne, on aura atteint notre
objectif,
autosuffisance alimentaire.
Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. C'est la fin de cette émission. Une émission donc qui portait sur la productivité, l'amélioration de la productivité agricole au Mali. Et nous étions avec trois invités, Kone Salimata Berthé de la Direction nationale des productions et industries animales, Jean-Parfait Dako de la Direction nationale de l'agriculture et Amadou Sy, donc de Faso Kaba Industries. Je suis Famous Sidibé. Gagne Kanté était à la technique. Nous direz à la régie vidéo. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain et bonsoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halo de Monde.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.